I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Emile, Seb.
Hey, hello.
Podcast Distorsion. Yes. Bienvenue au studio.
Merci de l'invitation. Oui, magnifique studio. On doit dire qu'on est, on est impressionné par toutes les installations.
Merci.
Très professionnel.
C'est ça que j'essaie. J'essaie d'avoir l'air professionnel. Parce que les conversations ne sont pas toujours professionnelles.
C'est pas grave, c'est l'intention qui compte.
Exact.
Vous êtes rencontrés comment?
Nous, on s'est rencontrés, on faisait de la radio ensemble, même un podcast il y a plusieurs années.
Là, radio X?
C'était dans les studios, pas de Radio X, mais c'était à Québec. C'était dans les studios à l'époque de Jeff Filion. Il y avait la radio satellite, puis nous, on faisait un épisode, une émission qui s'appelait Haute Résolution, parce qu'on parlait technologie, jeux vidéo, actualité, des films, cinéma et tout ça. On était avec un autre collègue, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Émile et moi, par hasard. Émile habitait à Québec à ce moment-là. Moi, je viens de Québec, donc je venais là, puis on a cliqué comme amis. Puis ensuite, la vie l'a amené à Montréal, puis on a voulu partir un podcast. C'était autour de 2016, puis Distorsion a été lancé en 2017. Donc, pendant une bonne année, on a brainstormé, puis c'est comme ça que Distorsion est né. Là. Mais on est des très bons amis à la base.
Alors, les deux, quand vous êtes venus à Montréal, c'était pourquoi?
Moi, j'ai suivi mon ex-femme, qui à l'époque était ma femme. Puis moi, j'ai toujours voulu habiter à Montréal. Donc, moi, je suis ici depuis 2006.
OK.
Donc, ça fait quand même un certain temps. J'ai toujours aimé la ville, la diversité et tout ça. C'est vraiment pour ça que je voulais venir ici.
Et toi, Emile?
À l'époque, parce qu'on... En fait, on a des carrières en plus de notre podcast, mais j'ai longtemps travaillé dans le jeu vidéo. Donc, je travaillais chez Ubisoft dans le temps, qui est installé à Québec, mais qui, bien sûr, a un énorme studio à Montréal. Donc, à ce moment-là aussi, je transitionnais pour venir travailler à Montréal. Fait que c'est à ce moment-là que moi puis Seb, on a comme reconnecté. Puis on s'est dit, pourquoi pas là, lancer un podcast. À l'époque, c'était les grosses années de Serial. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Bien sûr, oui.
Le podcast, un des premiers blockbusters, si on peut dire, là, dans le podcast.
Ça existe encore.
Ça existe encore, mais c'est vraiment la première saison qui a vraiment éveillé tout le monde là, au monde du podcast criminel, d'enquête, journalistique. Puis nous, on tripait là-dessus sur ce podcast-là qui était relativement nouveau. Puis en même temps, on est des passionnés des technologies. Moi, je viens du monde du jeu vidéo, Seb de stratégie web et autres, gros gamer aussi. Donc on s'est dit pourquoi pas un peu jumeler les deux, parler d'histoires un peu bizarres, mais qui sont en lien avec la technologie puis l'ère numérique. Puis c'est comme ça ça a été ça un peu notre premier pitch, veut, là, pour lancer le podcast.
On a des parcours similaires. Moi aussi, j'étais dans les jeux vidéo avant.
Ah ouais, ah, okay.
Ouais. Moi, je travaillais à EA.
Ok.
Ouais. C'est pour ça que quand tu as mentionné ça, je dis ah, c'est intéressant. C'est les gars des jeux vidéo ont dit on doit partir des podcasts.
Exact. Il y a plusieurs personnes. On dirait que dans le monde du gaming, c'est plus naturel d'aller vers Twitch, d'aller vers le podcast. D'essayer des nouvelles plateformes et d'être un petit peu à l'avant-garde des nouvelles.
Est-ce que vous êtes encore gamer? Est-ce que vous jouez à quelque chose?
Ah, moi, depuis que j'ai une petite fille, un petit peu moins. Mais en temps normal, oui, je serais un gamer, plus un gamer console. Seb, lui, sa fille est plus vieille. Donc,
oui, il a plus de temps. Là.
Il joue à quoi?
Ben, ces temps-ci, moi, j'ai une Xbox puis une Switch. Mais ces temps-ci, je joue beaucoup à Zelda Tears of the Kingdom, là, qui prend tout mon temps de jeu vidéo au point que j'ai annulé mon abonnement à la Game Pass sur ma Xbox.
T'avais plus besoin.
C'est parce qu'en fait, je culpabilisais de payer chaque mois. Je jouais presque plus à ma Xbox, ce qui est toujours le cas. Fait que je me laisse le temps de terminer Zelda, le nouveau Zelda qui est... Je sais pas si
Non, mais Jean-Michel Martel, je sais pas si vous le connaissez, c'est un humoriste incroyable, un de mes préférés. Lui, il adore ça. Puis dès que c'est sorti, il me parlait de ça, il dit « Tu dois acheter une Switch. » Moi, j'ai le PS5 maintenant. Mm-hmm. Alors, je joue à Elden Ring. Oui. Beaucoup, mm-hmm. J'adore ça. Je l'ai fini deux fois déjà, puis je continue. J'adore ce jeu-là. Puis j'attends pour un nouveau jeu de soccer.
Ah, c'est vraiment ça.
Mais j'en ai beaucoup, je joue beaucoup quand même pour quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'il est parti des jeux vidéo. Toi, tu joues-tu à quelque chose? Non, hein?
Ben, en ce moment-ci, moins, mais moi, je suis plus un gamer console. Je suis un gros fan des GTA, par exemple.
Oh, oui. Ma femme aussi adore GTA.
J'adore les jeux d'aventure. J'aimais bien Assassin's Creed à l'époque aussi. Il y en avait plusieurs bons, Last of Us, des jeux comme ça. Je suis plus un gamer dans ce style-là. Tu sais, j'aime être immergé dans les gros graphiques puis les environnements luxuriants.
C'est, moi aussi, puis j'aime ça rentrer, juste oublier un peu, puis je rentre dans une autre aventure.
Mm-hmm. Ouais.
Puis quand est-ce que, comme la passion pour veut pas, oui, c'est des cooles histoires que vous faisiez, mais c'est de vous voulez investiguer quelque chose. Vous êtes des personnes qui, vous avez plein de questions. Ça vient-tu de quelque part, ça? Quand vous étiez jeune, vous étiez toujours comme ça?
Ah, curieux. Ah ben moi, j'étais très curieux toujours, puis je...
T'acceptais pas si quelqu'un peut pas te donner une réponse.
Non, exactement.
Okay, j'aime ça.
Même souvent, on me prédisait avocat à cause de ça. J'avais toujours le dernier mot. Je posais toujours une autre question pour essayer de mieux comprendre les choses. Ah oui, tout jeune, parce qu'on n'avait pas de téléphone cellulaire, je lisais les boîtes de céréales. Je lisais tout ce que je pouvais avoir sous la main. Ça m'a toujours intrigué, en fait. Puis même longtemps, quand il y avait des... C'était des films de série B dans le temps, c'était des faits vécus. Déjà là, j'adorais ça, j'avais 10-11 ans, j'aimais les faits vécus. Fait que c'est un peu tout ça qui a fait en sorte que j'ai toujours aimé. Je suis d'une manière un peu maladif, tous les faits divers dans les journaux. Donc, ça l'a suivi. Et maintenant, au moins, je peux en faire quelque chose d'utile.
Même votre style, ça tombe dans le style Internet maintenant de comme creepypasta et tout ça. Alors, c'est culturellement... Il y a une grande relevance maintenant. Comme même les jeunes, ils aiment ça. Mais avant, c'était pas toujours comme ça. Mais c'est comme, tu aimes le true crime ou non, c'était plus centré à quelque chose. Mais à cause que c'est plus divers, comme avec votre podcast, je pense que vous rentrez dans un domaine, je veux pas dire moins niche, mais plus de monde peut vous écouter.
Oui, carrément. Ben, c'était un domaine qui était assez niche à l'époque. Puis on se demandait même est-ce qu'on est trop niche, tout ça. Puis on a commencé humblement, puis tranquillement, on s'est rendu compte que les gens embarquaient vraiment. Mais tu sais, c'est dans l'air du temps. C'est toutes les histoires weird qu'on raconte, qui sont des histoires bien réelles. Bien, ils s'en passent tous les jours maintenant. Puis surtout en lien avec les technologies, en lien maintenant cette année surtout, on est dans l'émergence d'intelligence artificielle. On a parlé de révélations avec les ovnis, on est dans le deep fake, le scam et tout ça fait un gros retour. On est un peu au milieu d'une guerre froide aussi avec le conflit russe.
C'est donc, pas froid.
Mais non, c'est pas
ça. Non, c'est un vrai combat.
Ouais, non,
c'est plus froid. Mais donc, as-tu peur de...
On est dans l'intensité là, au niveau numérique là, dans les dernières années. Là.
As-tu peur de l'intelligence artificielle un peu?
Ben, quand on voit des histoires un peu comme quoi les AI commencent à publier des stories sur les réseaux sociaux, des choses comme ça,
où
ils commencent à faire des gestes de leur propre chef, ben là, ça peut être un peu inquiétant. Moi, je suis plus, pour l'instant du moins, je suis plus un partisan d'embrasser l'AI puis de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser d'une manière authentique, d'une manière qui est pas abrutissante non plus, sans faire perdre des jobs à des tonnes de gens.
Mais
il y a un côté qui est inquiétant aussi là.
Oui, absolument. Mais moi, étant dans le milieu de l'informatique, je suis très emballé par l'intelligence artificielle, mais j'ai certaines craintes aussi. Même la semaine passée, il y a un juge qui a déclaré que toute œuvre créée par une intelligence artificielle ne peut pas avoir de droit d'auteur. J'ai hâte de voir j'ai de la misère à analyser les tenants et aboutissants de ça, mais en même temps, c'est un gros move là, que tout ce qui... Tout ce
on
qui...
va dire que toi, maintenant, tu prends Photoshop, Adobe, ils ont un nouveau suite.
Oui, exact. Ouais.
Tu décides, tu crées, tu dis, je sais pas, un lion dans un cycle avec Pantelis puis Emile, tu crées une image. Puis tu utilises ça pour ton thumbnail. Alors, tout le monde peut prendre ça parce que c'est pas toi qui as créé ça.
Si elle a été créée entièrement par un logiciel d'intelligence artificielle comme Midjourney, par exemple.
Ouais, ça, c'est bizarre.
C'est
ça.
Bizarre, hein? Oui, puis ça a créé une jurisprudence parce que je me rappelle plus du cas exact, mais c'est ce qui a amené à cette décision-là. Ça, on dirait que j'ai hâte de voir ce que ça va amener parce que de plus en plus, même les médias l'utilisaient pour créer des... du contenu aussi. Il n'y a pas juste de la fake news qui est créée avec, avec les AI. Mais en parlant de fake news, c'est ça, moi, c'est l'un des enjeux qui me fait le plus peur. Mais je sais que là, de plus en plus, ils vont mettre des watermarks la
pour dire
pastille, là, que ça vient de tel endroit. Dans l'output, simplement pour s'assurer de donner une forme, je veux dire, pas de droit d'auteur, mais de la source, de où ce que l'image a été générée. Ça va peut-être régler une partie du problème, mais un watermark, ça s'enlève.
Facilement,
c'est ça. Là, donc,
avec de l'intelligence artificielle.
Oui, exactement.
Avec la même technologie.
Oui, c'est ça. Il y a cet enjeu-là, puis là, on parle pas de... parce qu'il y a tout un monde criminel aussi qui l'utilise maintenant. Il crée des malwares beaucoup plus rapidement, parce que l'intelligence artificielle, sa grande force, comme ChatGPT, c'est qu'il réfléchit, c'est tellement de cerveau qu'il réfléchit à la fois à quelque chose qu'on ne pourra jamais gagner contre eux d'une certaine façon. Là. Donc, ça, il y a cet aspect-là là, qui me fait un peu plus peur.
Moi, tu sais, ce qui me fait peur, c'est que plus que l'intelligence artificielle devient smart, plus que ça va comprendre qu'on est des merdes. Puis là, j'ai peur vraiment Terminator style. J'ai peur de ça parce qu'on peut arriver à un moment où on a donné trop d'accès à eux, trop de contrôle. Puis ils vont décider, hey, tu sais quoi? T'es un peu dangereux. Je vais prendre charge. Puis là, on est fini. Parce que tout est numérique, tu sais, tout est contrôlé par l'Internet, puis tout ça. Ça, pour moi, c'est une grande peur. Je sais pas si c'est juste une crainte parce que je suis vieux, puis je, tu sais, peut-être c'est juste ça. Ça va jamais arriver. Mais je vois que l'intelligence artificielle devient de plus en plus smart, puis vite, puis avec le quantum computing. Ça, c'est... Tu sais, en un instant, tu peux faire plein de processus. Il y a quelque chose là qui me fait peur.
Oui, exact. Parce qu'on va en avoir besoin hein, de ces super ordinateurs-là parce qu'actuellement, juste ChatGPT, la puissance de calcul, ça leur coûte 700 000 par jour.
Quoi?
Juste faire tourner les serveurs pour exécuter les requêtes. Puis une chance que Microsoft, entre autres, est derrière ça pour baïonner un peu, disons, fournir le matériel et l'argent. Ah ouais. Parce que c'est même s'il y a des abonnements, ça coûte une fortune en traitement informatique.
Je savais pas.
Ah oui, c'est il y a même des fausses rumeurs qui disaient qu'OpenAI est sur le bord de la faillite, mais c'est complètement faux. Microsoft sont vraiment leur partenaire, puis Microsoft, ils sont loin d'être en faillite. Mais
non, ils ont besoin de ça, c'est le futur.
Ah ben oui, exactement. Puis même, ça coûte tellement cher que Microsoft ont décidé de créer leur propre processeur. Ils sont en train de travailler pour réduire les coûts parce que, imagine, c'est par jour. Donc, quand tu multiplies ça sur une année, c'est astronomique. Là. Donc, on n'aura pas le choix parce qu'on est dans le début aussi. Donc, on va avoir besoin de plus en plus de capacités de calcul aussi parce qu'elle va faire de plus en plus de choses également.
Puis, as-tu comme... Je sais que vous avez parlé un peu du catfishing.
Oui.
Mm-hmm.
Maintenant, avec cette technologie... Parce que nous, on a quelqu'un, on connaît, il fait des podcasts avec nous. Maintenant, il... comment est-ce qu'on dit house arrest en français, Poseidon? En house arrest, il peut pas partir de chez lui jusqu'à octobre.
Oui, exact. Détenu à la maison.
C'est ça, parce que c'est un criminel. Mais lui, il est un peu... Je ne vais pas dire... Il a des problèmes d'intelligence. Il est un peu stupide.
Okay.
Puis, il se fait catfisher au moins une ou deux fois par semaine sur Facebook. Mais c'est des choses que moi puis toi, on peut voir que ce n'est pas vrai. C'est une madame de Californie. Elle est vraiment riche. Puis, elle dit, j'ai juste besoin d'amis.
Ouais, ouais.
Puis, je vais donner des indices sur Bitcoin. Envoie-moi ça. C'est un gars vraiment stupide parce qu'il tombe sur les mêmes personnes. Mais lui, par exemple, ça ne prend pas grand-chose pour... changer son avis puis voler son argent. Mais avec AI puis la technologie qu'on a maintenant, y a-tu des fortes chances que des gens qui sont complètement foolproof de ça vont se faire ramasser puis ils se font catfisher? Comme, on est-tu rendu là où tu peux faire n'importe quoi?
Ben, je pense que oui, on le voit déjà même on commence, rendu là, est-ce que c'est vraiment de l'AI ou c'est
des fake?
Ouais, exact. Mais on commence à en voir des faux profils Instagram ou sur Facebook qui vont venir.
Qui ont l'air d'être vrais.
Qui ont l'air d'être vrais. Bon, tu sais, maintenant, on a l'œil un peu, tu sais, on le voit que quand la personne, ça a l'air trop à être des stock photos, qu'elle est membre depuis avant hier, que tu sais, elle a juste quatre amis ou, tu sais, on peut déceler ça de nos yeux d'habitués des réseaux sociaux, tu sais, mais c'est sûr que quelqu'un qui est moins à l'affût de ça, des personnes un peu plus âgées, nos parents, ces personnes-là peuvent être plus enclins à tomber dans le panneau parce qu'on en voit, moi j'en ai fait l'expérience aussi, là, des gens qui semblent réels, puis qui connaissent même tes intérêts, en fait, parce qu'ils ont scanné tous tes intérêts, puis ils ont l'air réels, ils te posent des questions, depuis quand es-tu à Montréal, des choses comme ça, mais tu sais très bien que c'est pas...
C'est
pas une personne ou que c'est des tentatives de catfish. Puis ça, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Puis on a même un peu, tu sais, même avec la série télé Catfish sur MTV, qui continue encore. Des fois, je me demande comment ça, ils ont encore des choses à dire.
Ouais.
Les gens se font encore attraper là-dedans malgré tout ce qui a été dit là-dessus, mais oui, tu sais, les gens, les criminels vont raffiner leur technique, justement, l'AI va embarquer là-dedans. Donc, je pense qu'on va en voir de plus en plus des situations comme ça.
Ça va être des cas extrêmes, je pense, qui arrivent.
Oui, nous, on a même couvert un cas extrême avec dans notre série télé, en fait, qu'on a sorti en 2019.
C'était quoi le cas?
C'était une dame, une Montréalaise, en fait, qui, elle, était tombée amoureuse d'un, je crois, un ex-militaire qui est au Mali, mais bon, qui est d'origine canadienne et tout ça. Puis lui, il est tombé malade là-bas, donc ils ont forgé une relation au fil des mois. Puis à un moment donné, ben il est tombé malade. Puis c'est à partir de ce moment-là que les demandes d'argent ont commencé. Donc,
ça a pris du temps.
Ça a pris quand même du temps, là, plusieurs mois de grooming, là, si on veut, là, à quelque part, là, de manipulation puis tout ça. Puis la personne, la dame en question, au fil des mois, lui a donné jusqu'à 400 000 $.
Ouais, c'est débile. Là.
Donc on parle de gros montants, puis c'est hyper triste. Tu sais, cette dame-là pourrait être notre tante, notre mère, notre grand-mère. Donc c'est super inquiétant. Puis même nous. Si on est arrivé avec les preuves, nous on a même trouvé la personne réelle. On a trouvé la personne sur les photos qui était un acteur, un genre de figurant de LA.
T'as-tu trouvé la personne qui était derrière
la même
On a trouvé la vraie personne qui est pas du tout la personne sur la photo en fait.
Good job.
Qui fait partie d'une organisation bien ficelée de scammers.
C'est habituellement c'est comme ça. Ouais. Je sais on end ils font ça aussi. C'est tout un groupe.
Oui, c'est tout
un groupe. Ils ont des locaux, puis ils travaillent de là,
Ouais, dans ce cas-ci, ça venait d'Afrique. Nous, il me semble que ça venait du Mali, justement, au Congo.
Congo, là, de mémoire.
Ouais, exact. Puis c'est toute une organisation, en fait, qui ne font que ça, qui essaie de repérer des gens en situation de vulnérabilité. Ils vont étudier ces personnes-là, puis ils vont faire de la manipulation avec eux, là, vraiment, à long terme. Puis éventuellement, les demandes d'argent vont arriver. Mais là où je voulais en venir, c'est que malgré le fait qu'on est arrivé à la dame, avec toutes ces preuves-là, avec c'est qui la personne sur la photo, voici c'est cette personne-là.
Elle ne croyait pas.
Vous voyez, elle a fait des stories, elle fait son jogging dans les Hollywood Hills en ce moment. Donc elle peut pas être en train de, elle a pas le cancer au Mali, tu sais. Donc en arrivant avec ça, en arrivant avec l'origine des appels téléphoniques, tout ça, sur le coup. Évidemment, elle a eu un peu un choc émotionnel. Mais par la suite, le pouvoir le désir d'être aimé, le désir d'avoir de l'attention, d'avoir de l'attention affective est plus fort. Puis elle est retombée là-dedans. En fait, elle est retombée, elle a continué de lui envoyer de l'argent.
Ah, c'est comme ça avec notre ami.
Ah oui.
Il voulait rien savoir.
Ouais.
Puis des fois, moi, je savais, par exemple, il dit non, elle est vraie. Je vais parler avec elle. On a on va avoir un appel vidéo samedi. Puis moi, j'étais comme, premièrement, pourquoi elle n'a pas fait ça directement? C'est juste un appel vidéo, fais ça. Puis deuxièmement, je te dis qu'elle va trouver une excuse. Tu ne vas pas parler avec elle samedi. Puis c'est toujours comme ça à chaque semaine.
Exact.
Puis lui, il ne voyait pas ça. Puis moi, c'est sur des podcasts, moi, j'ai crié. J'étais comme, c'est impossible que tu es si stupide. C'est impossible. J'étais trop fâché. Lui, il était emmerdé, lui, à cause de ça. Puis ouais, ça arrive trop. Je vois ça avec plein de gens, puis ça me choque. Ça me choque. Mm-hmm.
Mais c'est choquant. Puis justement, l'appel vidéo, c'est un des premiers drapeaux rouges que tu peux lever. Là, quand quelqu'un a toujours une excuse.
La webcam est brisée.
C'est
là.
Ça, là, son téléphone ne fonctionne pas, etc. C'est pas. Mais moi aussi, je comprends pas parce qu'en plus, l'affection, elle n'est même pas physique.
C'est
pas,
ça.
Elle est complètement virtuelle. Elle se passe que dans ta tête d'une certaine façon. Là. Ça, j'ai de la misère à saisir ça, mais c'est vraiment des gens vulnérables. Puis si vous voulez, il y a un site qui s'appelle socialcatfish.com. Puis eux, c'est des outils là, pour savoir justement, vous pouvez utiliser des outils payants et gratuits. Mais ils ont leur Social Catfish of the Week. Puis à chaque semaine, ils mettent les photos les plus utilisées. Tu sais, comme l'acteur californien, là, souvent, c'est tout le temps les mêmes. Puis c'est vraiment incroyable. Encore la semaine
Adobe Stock Photo.
C'est dans leur blog. Wow. Le truc. Alors, oui, tu peux faire vraiment une recherche, même gratuite. C'est surprenant.
Poseidon, check ton profil à toi sur Instagram. Dis si ça dit si c'est vrai ou non. Ça serait drôle. Ouais, si ça dit non, c'est une catfish.
Puis ça, c'est rendu là.
C'est un Indien.
Pour revenir à ce qu'on disait tantôt. Pourquoi ne pas dater un AI, justement?
Ben oui.
Le AI ne te demandera jamais de l'argent.
Ça va arriver.
C'est déjà ça.
Je te crois.
Oui, des virtual girlfriends, tu en as déjà carrément. Là. Oui, des gens qui vont offrir leur service de d'AI, en fait, de compagnons virtuels.
Puis ça fait quoi? Ça te parle comme...
Ben, en fait,
hey, t'as fait quoi aujourd'hui?
C'est un peu ça, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'au départ, le AI va discuter avec la blonde virtuelle, mais qui au départ est une vraie personne. Elle va lui donner une personnalité. Puis après, le AI va prendre le relais. Donc, dans le fond, vu qu'il a été nourri de la personnalité de la personne, puis il va pouvoir comme entretenir ces relations-là. C'est un service qui s'offre, c'est comme Émile dit, depuis quelques mois. Déjà là, même nous, on avait parlé, c'est un Japonais, je crois, celui qui était marié à un hologramme. Là. Donc, c'est les gens qui vivent beaucoup de solitude se retournent vers des solutions comme ça. Parce qu'ici, il y a quand même un ratio homme-femme, ou du moins de couple. Je pense qu'on peut s'en sortir, mais il y a des pays que les ratios sont vraiment disproportionnés.
En Chine? Hommes.
Oui, en Chine, au Japon, il y a des ratios disproportionnés, fait que ça fait qu'il y a beaucoup de gens seuls.
C'est où? Toronto. Toronto, apparemment, il y a beaucoup plus de femmes, je pense, que d'hommes.
Ah, OK.
Je sais pas si c'est vrai, mais une de mes amies, c'est une humoriste, elle est déménagée là-bas. Puis elle m'a dit, ouais, je savais pas que c'est comme ça. Puis pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile de trouver des hommes.
Sans doute, hein, ben oui.
Puis apparemment, les hommes là-bas les traitent comme les femmes sexy font aux hommes ici. Comme ils t'ignorent, ils n'ont pas besoin. Ouais, okay. Ouais, parce qu'il y en a trop. Il n'y en a pas assez. Alors, ils savent que c'est eux, la minorité. Tu sais, alors,
oui.
Ouais, c'est drôle, ça. C'est quand même quelque chose de voir.
Oui,
Poseidon, ils cherchent pour voir si on va le trouver.
Oui, j'ai hâte de
mais voir. Mais t'es une vraie personne, alors je pense pas qu'ils vont te.
Non, mais tu pourrais quasiment voir si quelqu'un pourrait utiliser ton profil aussi.
Oh, shit.
Ou même des profils oubliés, comme ils disent. Des vieux profils quand on était plus jeune ou qu'on aimerait oublier.
Oh. Exact.
Ah ouais, moi j'en avais. Ben, Facebook, avant Facebook, c'était, il y avait une Five Star, je pense, ou Friendster.
Friendster, ben oui.
Garbage.
Ah ben oui, Friendster. T'es-tu déjà fait catfisher ou quelque chose que t'es embarqué dedans un certain
temps? Jamais embarqué, mais je reçois oui, plein de messages de gens que tu sais que c'est pas vrai. Mm-hmm. J'ai des opportunités de business pour toi. Ça, mais oui. Moi, même quand j'étais jeune, je pouvais voir. C'était trop facile parce que c'est toujours des choses comme ça, des choses stupides que tu vois comme... Ben, ou bien c'est pas une vraie personne, c'est pas sa langue maternelle, la manière où elle parle. Je pouvais toujours voir ça. C'est pour ça que je me frustre avec le monde. Mais d'une manière, je comprends comment tu peux te faire attraper dans ça parce que si quelqu'un te trouve dans le mauvais moment, t'es un peu vulnérable, tu penses pas, puis tu penses que c'est vrai, puis là, tu rentres déjà dans ça, puis dans ta tête, c'est une personne qui est vraie. Là, t'es fucké.
Mm-hmm.
Ouais, là, tu vas penser que c'est vrai, tu vas la défendre. Parce que notre ami, c'est ça qu'il fait. Il défend tout le monde qui le scamme. Il envoie de l'argent.
Ouais, ah, ouais. C'est à un ce vrai, point-là, okay.
Ouais, c'est un vrai imbécile. Ouais, ouais.
Il est naïf, disons.
Ouais, non, c'est un imbécile.
Ouais, ouais.
C'est un imbécile. Mais, une autre chose, je voulais demander. Est-ce qu'il y avait, ça vous est déjà arrivé que vous rentrez dans une histoire? Puis vous êtes comme, OK, vous êtes cool, tu sais, vous pensez, vous savez où ça va vous rendre. Puis il y a quelque chose de choquant qui arrive, puis ça change votre perception. Tu es comme, oh shit, je croyais pas dans telle affaire, mais maintenant, je pense que. Y a-t-il une histoire qui a changé vos avis?
Ah, ben, souvent, j'essaie de penser ouais, rapidement, mais il me semble souvent quand même, on se met à changer nos.
Ah, ben
nos
oui,
avis.
En cours de route, mon Dieu, je n'ai pas d'exemple qui me vient. Mais oui, souvent, on finit par mieux comprendre les circonstances. Ça aide à changer d'avis, mais mon Dieu, j'ai de la misère à nommer, à pointer vers un cas particulier.
Parce que je sais, par exemple, ben, on peut parler un peu de ça, que vous allez avoir un épisode spécial à propos des extraterrestres, puis le disclosure qui est arrivé, ça va être cool. Ça va être très cool. Tout le monde parle de ça maintenant. Je vois même mes clips. Il devient viral quand j'ai une hashtag de UFO maintenant.
Ouais, ouais, ouais.
Ah oui.
Le monde est excité.
Tu vois la différence, là, c'est clair.
Ouais, à cause que le gouvernement a parlé un peu, ça devient plus crédible. Ouais. Alors le monde. Mais moi, je pense, pour moi, c'est moins crédible. Dès que le gouvernement a dit, ouais, les extraterrestres sont vrais, moi, j'étais comme, OK, ils sont pas vrais. Je crois pas au gouvernement, moi.
Ah ouais, à ce point-là.
Moi, je fais le contraire.
Ouais, je suis plus gris, je te dirais. Parce qu'il y a des vrais, puis il y a eu des témoignages aussi.
Ouais, beaucoup. Puis des gens qui sont pilotes, crédibles.
Oui, c'est ça. Qui n'ont pas intérêt, du moins, à créer cette histoire-là.
Non, ça nuit à leur carrière.
Oui, exact. Ceux qui voyaient des boîtes un peu particulières chaque jour, là, tu m'en avais même déjà parlé, puis je n'en avais entendu parler ensuite. Puis c'est vraiment particulier. Moi, on dirait que ça a rallumé ma flamme, I want to believe, là. Les dernières nouvelles. Par
moi, un peu, mais j'ai quand même peur de me faire attraper par tout ça. Puis après, tu sais, dans un an, le gouvernement dit n'importe quoi. J'ai vraiment peur de tomber dans ça.
Ah, moi, je suis quand même content que le gouvernement s'y intéresse parce que si ce sont vraiment des êtres supérieurs, j'ai eu plus peur des extraterrestres que du AI actuellement, d'une certaine
mais
façon.
Mais on va dire qu'ils existent et sont supérieurs. S'ils voulaient nous faire du mal, ils pouvaient le faire déjà, non?
Oui,
c'est aussi ce que je me dis, là. Ouais, ils ont peut-être. Ils n'ont peut-être pas intérêt tant que ça, là. Mais j'ai hâte de voir. Ben dans cet épisode-là qu'on prévoit faire, on va parler avec Christian Page, en fait, qui est un peu une sommité dans le monde du paranormal et des ovnis au Québec.
Moi, je voulais vraiment parler avec lui, mais on n'a pas de contact avec lui. Poseidon essaie de se mettre en contact avec lui, puis... Je pense qu'il utilise un email, on doit se parler.
Oui.
Moi, j'ai des questions pour lui.
On peut se parler. Mais nous aussi, on a plusieurs questions pour lui, justement, en lien avec ça, parce que lui s'est vraiment intéressé à ça. Puis, comme tu dis, on dirait qu'il y a du nouveau, mais sans qu'il y ait de nouveau non plus. Je pense que là, il y a quand même des témoignages qui sont sortis. Tu parlais, Seb, c'est les ex-militaires, ex-pilotes de chasse qui à tous les jours, eux, au quotidien, voient des genres de boules lumineuses dans des genres de sphères. Puis eux, selon les témoignages de ce gars-là, ben ça commence à leur nuire. Je veux dire, ils vont faire des accidents, ça sera pas sur leur radar. Ils vont avoir peur de faire des fausses manœuvres, des choses comme ça. Donc, eux demandent des explications aussi au gouvernement, dans genre what the fuck, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans notre ciel quand on fait nos essais. Sauf que en même temps, on a tellement viré en rond, on dirait, avec ce sujet-là depuis l'incident de Roswell au Nouveau-Mexique dans les années 50 jusqu'à maintenant, en passant par les Phoenix Lights ou même l'OVNI du Centre
Bonaventure. Les Phoenix Lights.
Oui.
Ça, c'était pas incroyable?
Ben, c'était assez incroyable, oui. Je me demande pourquoi, justement, pourquoi il y avait un doute même après ça. Donc, j'ai l'impression qu'on doute tellement de tout que, tu sais, est-ce que vraiment un jour on va avoir la preuve que c'est vraiment vrai ou, tu sais, on dirait que c'est rendu un mime un peu, là, les extraterrestres. Là.
Mais moi, je vais dire pour moi, je veux croire, c'est sûr, mais mes doutes, je vais dire ça vient d'où. Par exemple, les Phoenix Lights, j'ai vu toutes ces vidéos-là, c'est crédible. On sait même le match de baseball, on sait qu'il y a quelque chose qui était là. Moi, mes questions sont, c'est-tu des extraterrestres ou c'est-tu quelque chose de militaire? Mais s'il y avait quelque chose là, ça, c'est déjà, c'est pas une discussion, on sait. Le gouvernement a même dit, Phoenix Lights, oui, on a vu ça. Alors, on sait qu'il était là, mais je sais pas si c'est extraterrestre ou humain. C'est juste ça, la question pour moi. Mm-hmm. Alors, je comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui disent, oh non, ça, c'est fake. C'était staged, c'est pas vrai. Non, on sait que c'est vrai. C'est juste qu'on ne sait pas si c'est des extraterrestres ou non. Est-ce que vous tombez dans cette camp-là que, ben, on a-tu vraiment fait du contact ou y a-tu une technologie qu'on ne veut pas vraiment parler aux gens? Peut-être c'est les Chinois, peut-être c'est les Américains, mais c'est une technologie qu'on ne veut pas vraiment montrer aux gens. parce que c'est un peu trop avancé puis on veut le garder pour nous, pour la guerre ou quelque chose?
Moi, je suis pas trop du genre complotiste, mais j'ai l'impression que c'est peut-être dans l'intérêt du monde de pas en savoir trop dans ce cas-ci, en fait, on dirait. On passe notre temps aussi à nous arriver avec des doutes. Tu sais, quand il y a eu les fameux ballons chinois là, au-dessus de l'Alaska, du Canada, ben c'était on nous a bien dit que c'était des objets non identifiés. Donc, il y a une rhétorique qui est utilisée pour nous détourner notre attention de quelque chose d'autre qui arrive. Mais dans le choix des mots, c'est comme si on maintenait toujours ce doute-là. Là, est-ce que c'est des ballons espions? Est-ce que c'est des ovnis? Qu'est-ce qui s'est écrasé? On dirait presque que c'est intentionnel qu'on soulève constamment le doute, en fait.
Tu sais, t'es pas la première personne qui dit ça ici au podcast. C'est plein de personnes qui croient la même affaire que toi, qu'à chaque fois que ça arrive, c'est comme une distraction. Puis on le voit avec les dernières nouvelles cette année. À chaque fois qu'on a quelque chose de grand, de nouveau, puis on veut en discuter, on parle d'extraterrestres ou des ballons, puis tout ça. C'était arrivé avec l'affaire d'Epstein.
Ouais.
Puis c'était comme, écoute les gars, c'est trop proche, ça commence à être clair. Mais pour la majorité, apparemment, ce n'est pas clair. Ils vont changer d'avis. Par exemple, juste Epstein comme exemple, on voulait savoir si c'est qui sur la liste, on va-tu. On a oublié ça. On a parlé des ballons chinois, on a parlé maintenant des extraterrestres, on parle de tout. On met de l'argent pour investiguer ces affaires, mais les affaires qui sont importantes, comme ça, on les oublie. C'est yesterday's news, on s'en fout. C'est fou comment on est facile à manipuler.
Ah ben la une des médias est facilement interchangeable, ça c'est vrai, hein, par rapport à ça. C'est l'époque à laquelle on vit, hein, avec la vitesse d'information, j'ai l'impression, qui circule, puis la quantité d'information aussi. On a tous juste deux yeux. Un cerveau, donc j'ai l'impression que ça joue aussi là-dedans, l'épuisement des nouvelles, puis souvent des gens pris dans des scandales en profitent aussi d'une certaine façon parce que dans 3 jours, on n'en parlera plus. Là. Donc,
c'est ça le truc. Tu dis rien, quelque chose d'autre va arriver pour prendre ta place.
Non, effectivement.
Exact. Le nouveau trend va arriver.
Il va remplacer.
Exact.
Mais t'as raison. Mais tu sais, en plus, les ballons chinois, c'était dans le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Alors, on savait pas.
C'est ça, les Chinois étaient plus alliés à la Russie. Je comprenais aussi la crainte d'un peu tout le monde. Là, ça amplifiait encore plus, je pense, que si on était dans un moment
de guerre. Moi, j'avais pas peur. Moi, j'étais offusqué. Pourquoi est-ce qu'ils sont là?
D'après moi, il y a des gens qui se sont fait parler aussi par la suite, là, parce qu'il y a des gens qui ont dû les identifier puis ils ont laissé aller. Là, il y a une vraie surveillance aérienne. Là, je sais pas c'est quoi leur balise, en fait, pour descendre un objet non identifié.
Oui, puis quand on était comme, on peut pas le descendre parce qu'on sait pas c'est quoi, alors pourquoi est-ce que tu es là? Tu peux rien descendre. Avec cette logique-là,
oui,
on peut rien faire.
Oui, exactement. Mm-hmm.
Puis, parce que vous faisiez beaucoup de podcasts, comme moi. Alors, il y a des milliers d'heures sur l'Internet, discussions. Moi, j'ai des vidéos, tu sais. On est rendu dans le monde de, pas juste AI, mais de deepfake. On est rendu à une place que si quelqu'un veut, il peut prendre ma face, toutes les heures que j'ai parlé, même le Frenchcast, même avec mon accent, puis faire une vidéo, puis c'est pas vrai. Puis c'est moi qui dis n'importe quoi. On doit tuer les Chinois ou n'importe quoi. Ouais. On est-tu rendu maintenant, comme 5 années de loin d'un temps où tu peux pas croire rien que tu vas regarder puis avoir plein de scandales qui vont se créer puis sont même pas vrais? On est-tu vraiment là où il y a une manière avec la technologie de voir qu'est-ce qui est fake ou non? Parce que de qu'est-ce que moi je vois, on est vraiment proche de ça, d'avoir des vidéos ou des extraits audio que je peux pas savoir si c'est vrai ou non.
Ouais, on est en train de passer la Uncanny Valley. Là,
c'est exactement ça.
Où il y a presque plus de différence dans les détails entre le robot et l'humain. Mais je pense que ça va être une question d'éthique, je pense, appliquer à ce domaine-là. Parce que j'ai l'impression que l'œil humain, un jour, même l'oreille humaine, pourra plus faire ces distinctions-là. Donc, il va vraiment falloir se faire confiance aux gens qui produisent ce contenu-là. J'ose croire qu'il va avoir je ne sais pas, un système qui permet de détecter des, mm-hmm. que certaines choses sont produites dans les métadonnées d'un fichier, par exemple.
Il y en a déjà, en fait.
C'est produit par l'AI, tu sais, qui va... où on va pouvoir filtrer, en fait, ce contenu-là.
Ouais.
Mais oui, on arrive à un moment où c'est... En ce moment, on est dans le flou parce qu'il y en a des technologies qui permettent de faire du deepfake.
J'en ai vu des deepfakes qui étaient quand même bons.
Oui, très, très bons. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, ça prenait des ordinateurs ultra-puissants qui allaient faire un rendu pendant 3 jours pour te faire une vidéo d'une minute. Maintenant, ça se fait presque automatiquement avec un filtre TikTok. Là, donc, on a évolué énormément en très peu de temps, mais c'est problématique en ce moment, alors que tout est, alors que les lois sont floues, on est un peu comme dans une zone grise, puis on en voit des gens qui se font voler leur identité, mis sur des corps d'acteurs, d'actrices porno, mm-hmm. De choses comme ça, donc c'est problématique en ce moment même. Là.
Alors imagine dans 5 ans, on va être
Ça va être incroyable, parce que c'est vrai ce que tu dis, comment, y a des outils, mais ces outils-là, souvent, c'est des spécialistes qui les ont, ça va être peut-être même des journalistes, des policiers, etc. Mais c'est vrai qu'on s'en va vers un monde où ça va être vraiment difficile à détecter. Puis c'est là où ce qu'il va falloir faire confiance, c'est le canal de où ta nouvelle va provenir. T'sais, on chiale beaucoup contre les médias traditionnels, mais ils ont au moins cette éthique-là de tenter, du moins, de ramener le plus possible du contenu véridique. Là.
Mais même eux, ils font du fake news, des fois.
Ben, ils se font avoir aussi.
Oui.
Mais tu te souviens avec Joe Rogan, CNN, quand sur CNN, ils ont changé sa face, ils ont mis un filtre, puis il avait l'air un peu plus malade, il avait l'air jaune, puis tout ça.
Mm-hmm.
Puis ça, ils ont fait ça par exprès. Ils ont pris le vidéo d'Instagram que tout le monde pouvait voir, que c'était une telle couleur, puis ils ont changé ça, juste pour que leur histoire fait plus de sens. Il est malade, tout ça. Alors, puis ça, c'était pour rien. Imagine s'ils ont le pouvoir de créer des nouvelles.
Mm-hmm. Ben oui.
J'ai pas de confiance en personne. C'est pour ça que je te dis, si on n'a pas ces outils-là, on peut se faire avoir.
Ouf, ça va absolument. C'est pour ça qu'il faut que les médias continuent à vivre, quand même qu'il y a une forme de médias structurés qui permettent de valider cette information-là, parce qu'ils vont en avoir, de plus en plus, puis on ne sait pas vers où ce que ça peut amener. Mais rapidement, c'est ça. C'est l'Internet, d'un côté, rapidement, il est capable de déceler à la gang, on est capable de voir et de répandre qu'une vidéo est fausse, mais de l'autre côté aussi du spectre, on est capable de répandre que la vidéo est vraie dans une autre chambre à écho où ce que ces gens-là, plus naïfs,
vont croire à ça.
Puis c'est là qu'il y a un réel danger aussi pour la démocratie. Puis je ne sais pas comment ça va être contrôlé. Il va y avoir des nouvelles législations. Hein. On commence à réguler. On est encore en train de réguler les cookies sur les sites Internet là, avec la loi 25, puis ça fait 25 ans. Imagine les lois pour le AI. Ça va aller plus vite, là, mais quand même, ça aussi, il va peut-être avoir des sanctions, comme qu'on ne peut pas copier des choses ou répandre des fausses nouvelles. D'une certaine façon, c'est condamnable.
Puis pour les cookies, maintenant, ils prennent, je sais qu'ils geolocation, ils prennent ça. Si tu avais cliqué sur quelque chose, mais as-tu des choses qu'on n'est même pas au courant?
Qu'on n'est pas au courant, non, mais c'est juste du pistage. Hein, ça va juste au fait de tracker ton comportement sur un site web.
Pour me vendre quelque chose.
Avec Google Analytics. Ça, déjà là, même maintenant, si l'utilisateur ne l'autorise pas, techniquement, tu n'as pas le droit de le pister. Mais oui, c'est les Facebook, Google de ce monde, Amazon qui placent des cookies, autant pour la publicité, mais aussi pour ton comportement d'utilisateur. C'est ce qui fait, moi je fais ça dans la vie, là, la publicité en ligne entre autres, puis c'est comme ça qu'on arrive à cibler les internautes selon leur profil et tout ça. Mais tu sais, ça reste des ordinateurs qui parlent à d'autres ordinateurs, là, c'est que des chiffres puis des ID qui se transigent, là, c'est pas de la... mais quand même, au moins, c'est une bonne chose quand même qu'il y a des lois pour contrôler cette information-là, parce qu'elle est énormément galvaudée.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que vous avez déjà reçu comme quelqu'un qui vous... comme un email de quelqu'un qui a besoin de votre aide pour investiguer quelque chose?
Quand même, c'est déjà arrivé quelques fois. C'est déjà arrivé qu'on reçoive des trucs weird aussi oui. par
comme
la poste.
Comme quoi?
Ah oui, c'est.
Moi, je suis intéressé.
Seb avait reçu. Il y a des choses gentilles. Hein, ça nous est arrivé de recevoir de la bière, par exemple.
Oui,
de la bière qui venait de loin, d'Europe même, de gens qui nous ont envoyé. Parce qu'on débute chaque épisode en buvant une bière, en fait. Puis, mais Seb a reçu un DVD assez étrange à un moment donné, là, qui est avec des trucs.
C'est une snuff film?
Encrypté dessus. Je ne sais pas s'il y avait un snuff film dessus, mais on ne l'a pas trouvé s'il y en avait.
Non, j'ai tout décrypté. C'était vraiment bizarre. C'est une enveloppe adressée à mon nom, mon adresse. Puis dessus, il y avait une forme de. Comment dire? Une pochette tatouée, pas tatouée, mais peinturée avec un genre de logo noir, une canette de peinture peinturée dessus. Puis le DVD, il y avait plein de codes, comme un numéro de série de Windows. Puis c'était vraiment bizarre. Là. Je l'ai googlé, je l'ai fait interpréter. J'arrive pas à trouver. Puis ça, le DVD, quand je le fais jouer, c'est juste du vidéo bleu. Là. Tu sais, comme dans le temps, quand on mettait une cassette VHS, puis l'écran bleu.
Ouais.
Puis c'est juste ça. Puis je l'ai lu, là, je l'ai décortiqué les fichiers à l'intérieur, voir si ça ne pouvait pas être autre chose, un exécutable. Parce qu'au début, j'avais peur que ça soit un virus aussi. Là. Fait qu'avant de le mettre dans mes trucs, je l'ai mis dans un vieil ordi que s'il brûlait, c'était pas grave. Puis finalement, on n'a jamais trouvé la source. On n'a rien trouvé. On n'a pas eu de source. On l'a mis sur Internet, mais il n'y a jamais personne qui a levé. Ah, ben c'est nous, on voulait faire une blague.
T'as-tu vérifié comme des filtres? Parce que je sais qu'avec la lumière, il y a des choses que. Si c'est filtré normal, le resolution, c'est bleu. Mais si tu changes, tu vois quelque chose d'autre?
Non, ça, j'avoue que je l'ai encore. Fait que je pense que je vais continuer.
Ah ouais, continue, tu dois checker. Si quelqu'un a mis ces efforts-là, il...
Ben oui, parce que j'ai checké à la poste, quand on reçoit un courrier, on a l'adresse, au moins le code postal de destination. Puis c'était j'ai quand même poussé l'enquête, mais c'était une boîte postale anonyme à Montréal. Fait que j'avais pas... plus de
temps. Oui, il a mis des efforts.
Oui,
hein?
La personne a mis des efforts quand même. Ça vaut la peine de relancer le dossier un peu.
J'aimerais vous aider.
Oui, ben, peut-être. Mais j'imagine que si la personne a fait autant d'efforts, c'est qu'elle espérait peut-être qu'on en parle dans le podcast. Puis, en fait, c'est la première fois qu'on en parle.
Oui.
Oh! On doit continuer cette investigation-là. Ouais, j'aimerais faire partie de ça.
Parce que je cherche le retour sur l'investissement. Au début, je pensais aussi que c'était quasiment un stunt pour, je sais pas, un nouveau jeu. C'était tellement... Parce que c'était bien orchestré. Là, comme je te dis, l'enveloppe peinturée, c'était pas cheap.
Mais ça avait quoi? Y avait-tu une indice sur l'enveloppe?
Non, c'est comme un peu des... comment dire? Pas des quadrillés, mais des... j'ai pas de misère à définir.
T'as-tu mis le black light dessus pour voir?
Non.
T'as même pas fait ça?
Non, j'ai
pas. Ça, c'est basique.
Ah oui, Seb.
Non, j'ai pas de black light, c'est vrai.
Je vous niaise pas. Je pense que si t'as encore tous ces contenus-là, on peut trouver quelque chose.
J'ai l'enveloppe, mais j'ai le DVD, en tout cas.
Un de mes amis, Chris Ramsey, est-ce que vous le connaissez?
Oui, de nom.
OK, ben lui, c'est un magicien, il fait des puzzles, il adore ça. Lui est très bon dans ça, il a un bon cerveau pour ça. On devrait se mettre tout ensemble. On peut même faire des vidéos avec ça. Puis on peut essayer de trouver c'est quoi.
C'est
lui,
intéressant. Oui,
j'en ai vu des puzzles qui sont extrêmes. Puis tu sais, ça prend du temps, mais il trouve tous des indices. Oui, il est très bon dans ça.
Ah, c'est bon à savoir.
Ben oui, parce que ça a toujours resté mystère irrésolu.
J'espère que c'est pas quelqu'un qui voulait faire la promo d'un show qu'on n'aura jamais...
Oui, exact.
Qui est passé depuis 2 ans.
C'était Guy Lepage, c'est tout le monde en parle.
Oui, c'était assez cryptique comme invitation.
Pendant que Poseidon est en train de se magasiner des lunettes...
qu'est-ce qu'il fait, lui?
Blue Light Eyeglasses.
Dis-moi.
Ça pourrait être aussi simple que d'utiliser... Ben là, c'est peut-être trop simple, là, mais peut-être aussi simple que...
Non, mais si tu as le Blue Light, je peux en trouver un. Puis on check habituellement quand ils font des choses comme ça. Il y a toujours quelque chose écrit dans ce, puis tu le vois. Puis c'est comme... rentre le DVD dans tel DVD player ou fais ça, mets la lumière, tu...
Ouais, d'après moi, avec un kit de détective de Fisher-Price, on pourrait avancer un peu. Là.
Ouais, parce que je pense pas que la personne a fait une... La personne voulait vraiment que tu trouves c'est quoi, sinon il n'aurait pas envoyé le DVD.
C'est ce que je me dis. Ouais. Puis il n'y avait vraiment pas de virus ou quoi que ce soit dessus. Là. Je l'ai scanné de toutes sortes de façons. Non, ça a toujours été...
Moi, je veux aider. Moi, je suis down. On peut parler à Chris puis on va faire quelque chose. Ça va être cool.
On va creuser le sujet. Ouais. Mais sinon, oui, ça arrive que des gens nous contactent pour des... qui veulent qu'on les aide à résoudre des problèmes, des histoires de catfish. Mais certaines personnes nous avaient contactés là, à l'époque où on avait fait notre émission de télé. Des fois aussi, c'est des cas un peu plus lourds. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix de les référer. Là, t'sais, on n'est pas des enquêteurs. Puis, t'sais,
comme quelqu'un comme « Est-ce que ma femme, elle triche sur moi? » Des choses comme ça.
Ça, on n'en a pas eu.
Ils ont besoin de private investigators.
Ça, on l'a pas eu. Mais t'sais, on a eu des gens qui nous disaient, mettons, on a peut-être de l'information sur le cas de sur telle histoire. J'ai l'impression vraiment d'avoir aperçu telle personne disparue. Ou ça, c'est arrivé quelques fois.
Ou
des gens, des familles, des fois, qui nous contactent de sujets sur lesquels on a déjà travaillé pour clarifier certaines choses, des choses comme ça. Mais oui, tu sais, les gens qui nous aident. Des fois, c'est des. Moi, c'est même, il y a même une médium une fois qui m'a contacté pour. Qui pourrait nous aider ou que sur tel cas et autres. Mais tu sais, en ce moment, on a moins on peut pas se lancer, on n'a pas l'énergie pour se lancer dans un.
Puis le temps aussi.
Exact, oui, c'est surtout là. Oui, exactement. Un jour, je sais pas si on refait une émission de télé on embarque temps plein sur une enquête précise. Ou c'est aussi quelque chose qu'on aimerait faire un jour avec Distorsion. C'est au lieu de parler de plusieurs sujets différents à chaque épisode, de faire une série sur peut-être un sujet où on fait une enquête. Un format serialized un peu là, qu'on appelle. Donc ça peut être intéressant aussi, peut-être dans un contexte comme ça, mais souvent quand ça arrive, on réfère les gens aux autorités, là, t'sais, contacter les policiers là, t'sais, pour ces infos-là.
Puis avec toutes ces heures de vous parlez, vous investiguez un peu, est-ce que vous croyez moins à des faits paranormaux ou plus avec tout ça? Moins croyant ou plus après tout ça?
Ben, on ne couvre pas beaucoup, beaucoup souvent le paranormal.
Mais c'est de tout. En général, à cause de toutes ces heures, est-ce que vous avez vu assez de choses que tu es comme, écoute, les personnes sont... le monde est chien. C'est vraiment... Tout est aux mains de l'être humain. Ou est-ce qu'après tout ça, tu es comme, fuck, mais ça, je ne peux pas expliquer ça. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial. Après toutes ces heures, est-ce que vous êtes plus ou moins?
Ben moi, j'ai moins foi en l'humanité. Je pensais pas que l'humain, des fois, même si j'aimais déjà ça, je creusais pas tous les cas aussi précis. Je vois que l'humain peut être vraiment fucké.
Oh, wow.
Puis vraiment malade. Il y a des gens qui font des choses horribles à d'autres personnes. Puis juste les victimes, moi, c'est les victimes. Des fois, j'en angoisse le soir. Moi, ça me fait plus peur. Depuis que je fais Distorsion, j'ai encore plus peur d'une certaine façon.
Des êtres humains.
Oui, puis d'être victime ou que quelqu'un de mon entourage, ma fille, tu sais, soit victime. Ça, ça l'a exacerbé encore plus cette crainte-là parce qu'il y en a des fous. Puis il y a des. Tu sais, puis en plus, souvent, c'est que tu sais jamais. Sur qui tu peux tomber malgré... Il n'y a pas toujours des drapeaux rouges si évidents que ça. Dans plein d'histoires qu'on a vues souvent, c'est que la personne est juste mal tombée et il est arrivé les pires choses. Donc,
Toi aussi, tu...
Ouais.
Oui, un peu. Je pense que c'est un... Sans perdre la foi en l'humanité, c'est sûr qu'on est désensibilisé sur certains sujets, tu sais, parce qu'on a fait... plus de 100 épisodes maintenant. Tu sais, des fois, c'est des histoires quand même assez lourdes. Donc, on dirait qu'on a un peu... je te dirais que j'ai peut-être développé un petit flair pour les scammers. Là, ou tu peux appeler ça une paranoïa aussi, peut-être. Là.
C'est mais, bon, ça? Toi,
oui,
après?
C'est ça. Mais tu sais, justement, un peu un aspect de genre, hey, mon Dieu, qu'il faut... faut faire attention à qui on fait confiance là. Tu sais, faut se méfier un peu, surtout en ligne, les vols d'identité, ces choses-là, c'est des choses qui me sont arrivées aussi pendant que je faisais Distorsion.
Ils ont volé ton identité à toi?
Ah ben, je sais pas si c'est eux, mais ça m'est déjà arrivé. Je pense pas que ce soit des amateurs de Distorsion ou autres, là. Mais ça m'est arrivé de me faire voler mon identité sur toutes les plateformes, ces choses-là. Donc, une fois que...
fausse profil sur Instagram, on va dire?
Un fausse profil sur Instagram qui va jusqu'à des faux profils Facebook qui font des achats sur ta carte de crédit sur Amazon je me fais livrer des choses chez moi dans ma boîte aux lettres, puis il y a des gens qui viennent le chercher dans la boîte aux lettres, là, tu sais. Des gens
comme
de...
c'est à eux.
Oui, c'est orchestré.
Ouais, c'est eux qui ont commandé.
Oui, exact. Donc, tu sais, quand des choses comme ça t'arrivent, ou quand on rencontre des gens comme la dame dont on parlait l'histoire de catfishing ou
ça, c'est sa faute. Après un certain moment, rendu là, tu montes des photos puis tout ça, c'est ta faute.
Ben oui. Ou même, tu en as fait allusion aussi, Seb, mais l'homme à qui on a parlé, qui est marié à un hologramme de sa chanteuse préférée, tu sais, c'est sûr que rendu là, il y a tellement de choses qui nous surprennent plus. Là.
Mais non, comment est-ce que tu... Premièrement, marié, c'est un grand mot. L'hologramme, as-tu des droits après?
L'hologramme ne peut même plus se mettre à jour. Puis ça, c'est un peu rigolo, dans le sens que la version, un peu comme ton OS de ton téléphone ou tout ça, il y a toujours des updates, mais des fois, ton système d'exploitation, il ne peut plus être mis à jour. Mais la personne, elle avait une version que son hologramme, il allait avoir une limite dans les mises à jour. Puis tu sais, je te rassure, là, au niveau légal, c'était pas un vrai mariage, mais c'était tu avais un vrai certificat.
Ils ont fait une cérémonie. Hein,
oui, c'est ça.
C'est-tu le gars, le japonais?
Oui, exact.
Oh, ah, ben
oui,
c'est lui. Ouais, c'est exactement lui.
On lui a parlé à lui. On a fait un Skype call avec...
Parle anglais?
Du Japon. Ouais. Non, avec...
On avait
une interprète japonaise. Puis lui, il a carrément...
C'est le toutou. Là.
Ouais, il y a une chanteuse virtuelle, en fait, au Japon, dont le nom m'échappe. Là. Hatsune Miku. Puis, ils ont fait des produits dérivés, dont des boîtes hologrammes. C'est bien populaire là-bas. C'est quand même de la vieille technologie et ça fait longtemps qu'il y a ce truc-là. Puis, à l'intérieur de cette genre de cloche d'hologramme-là, la chanteuse apparaît, elle peut chanter des chansons, elle peut avoir des conversations minimales avec la personne. Il y a une petite intelligence artificielle là-dedans. C'est pas très, très avancé, mais... Il l'a épousé. Sa famille n'est pas trop pour de ce qu'il nous disait. Là, ça crée un peu de controverse. Mais il va au restaurant avec elle.
Il va au restaurant avec pas la poupée. Il va avec cette petite machine-là.
Oui, le tube, l'espèce de cloche holographique. Il doit amener la poupée aussi, d'après moi.
Oui, parce qu'il dort avec la poupée. C'est comme son penchant physique, en fait. C'est ce qui est.
Crois ça?
Ben, je pense qu'il est très conscient que c'est virtuel. Là. Il avait pas l'air... mais lui, il disait que... Tu sais,
il fait l'amour véritable.
Il fait-tu l'amour avec l'épopée?
Il nous l'a pas dit. On s'est pas rendu jusque-là.
Ça, c'est une question que tu aurais dû demander.
Elle a pas l'air, comment dire, réceptive à ces actes-là. Mais
ouais, c'est pour ça que je te demande.
Je suis pas sûr qu'elle est consentante non plus.
Non.
C'est ça, mais lui, il avait l'air... Il disait que c'était quelqu'un qui était très timide, jamais eu vraiment de succès avec les femmes, qui avait été intimidé beaucoup à l'école. Je dis pas que ça amène toujours à ça, mais souvent, ça peut expliquer ça. Mais tu sais, on s'entend que c'est un choix.
Mais écoute, à l'école, si je rencontre quelqu'un qui fourre sa poupée, je vais l'intimider. C'est...
Mais ça, il était adulte, dis-toi. Puis même au travail, tu sais, c'est vraiment particulier, honnêtement. J'essaie de ne pas juger, plus de comprendre.
Mais tu sais quoi? Mais... Il ne fait pas mal à personne.
Non, ben c'est ça.
Non.
Moi, je préfère ça, puis je peux supporter ça plus que quelqu'un qui kidnappe quelqu'un qui aime, qui ne l'aime pas. Au moins, tu déranges personne.
Ah non, exact.
C'est pas graphique.
Non,
tu
ne
te masturbes pas devant le public ou quelque chose comme ça. C'est pas fou. C'est juste, tu sais, t'aimes ça, ça dérange personne. Ça, je peux être je suis d'accord avec ça plus que plein de choses. Je peux accepter ça.
Ben, nouveau mot, hein, la fictosexualité.
Ben oui.
Donc, des gens qui sont...
ça ne dérange personne.
Qui sont attirés par les personnages fictifs.
Mais ça peut arriver que tu t'es attiré, on va dire, une personne fictive qui est sexy. Lui, ce qui est bizarre, c'est qu'il sait que c'est pas vrai, puis il y a des stand-in, des poupées, puis tout ça. C'est plus comme une memorial. Tu vois, c'est comme un dieu. C'est ça que je trouve bizarre un peu. S'il y avait juste une poupée, puis c'est ça la personnification, je peux comprendre ça plus que d'avoir plein de choses comme une rituelle. C'est là ma ligne, moi, où je pense que ça devient plus bizarre que ça devrait être.
Il l'idolâtre un peu.
Ouais. C'est ça qui est un peu trop bizarre pour moi.
C'est pas comme si non plus c'était un hologramme de Taylor Swift. C'est l'hologramme de quelqu'un qui n'existe pas, en fait, non plus.
C'est vrai, t'as raison.
Donc, il n'y a aucune chance de la rencontrer.
Non, c'est ça, c'est pas comme tu crois dans un dieu, puis peut-être, t'es pas trop sûr. Là, tu sais que c'est une personne qui a créé ça, la personne peut même te parler. Écoute, c'est pas vrai, bro, moi j'ai dessiné ça, c'est pas vrai. Puis quand même, tu idolises ça, c'est ça que je pense que je trouve bizarre. Mais au moins, comme je te dis, il dérange personne, ce gars-là.
Exact.
Good for him.
Ouais, puis ça, c'est lui qui a été médiatisé, mais il en vend plein de copies. aussi. Là, donc, il a dû avoir plein de personnes. Puis ce qui est étrange aussi, c'est qu'elle n'est pas exclusive à lui, là, dans le sens que oui, la petite boîte, mais
okay, s'il en vend 1000,
c'est 1000. Oui, il y en a plusieurs de mariés à elle,
ça,
en fait.
C'est ça. Là.
Fucking pute!
C'est ça, c'est...
Fucking whore!
C'est une polygame. Mais non, mais plus sérieusement, mais ça, ils disent que ça va être une tendance. Puis là, on parle d'hologramme, mais... Toutes les compagnons virtuels, même les poupées virtuelles. Puis là, je ne parle pas d'une poupée gonflable. Là,
non, toi, tu parles des poupées
là.
Que tu...
Oui, oui. Parce que même ça, dans notre show télé, on a rencontré un fabricant de robots sexuels et virtuels. Puis ça aussi, c'est une nouvelle tendance
un
de
instant.
Plus en plus. Là.
Le gars, quel niveau de robot? Parce que nous, on avait investigué ça, puis il y a des robots que c'est comme... Écoute, ça se voit que c'est un robot, OK? Mm-hmm. Il y avait d'autres que, si tu prends une photo, ça peut être une vraie femme. On parle de quel style?
Ben celui avec le visage était quand même surprenant. Je pense qu'ils sont encore dans leur première version. Là. Ça reste que tu le vois là, que c'est un robot. Mais ça va s'améliorer aussi parce qu'on a vu une autre compagnie aussi qui fabriquait des poupées un peu plus de luxe, je te dirais, là, un gonflable de luxe. Puis ça, c'est vrai que la texture, la peau, le matériel, ça pouvait se rapprocher un peu, mais...
Ça coûte combien, ça?
Ah, c'est cher, mais c'était plusieurs milliers.
Ben, celle de... Ouais. En fait, la poupée dont tu parles, ça, c'est même troublant. Tu peux la louer. Là,
oui.
Tu peux la louer pour une soirée.
Oui,
là,
oui, oui, ici.
Puis le lendemain, elle se fait nettoyer, puis il y a quelqu'un d'autre qui la loue.
La loue, mais oui. Tu peux pas juste comme louer une vraie femme? Des escortes?
Ben ça c'est que
ça coûte pas moins cher puis c'est moins bizarre.
Ben ouais.
C'est pas moins bizarre de louer une professionnelle.
Il nous disait la personne qui louait ça qu'il y a beaucoup de couples aussi qui louent des pour faire des trip à trois. Donc mais j'ai essayé de pas trop figurer qu'est-ce qu'il faisait avec dans la chambre à coucher.
Mais celle, pour revenir sur le prix, celle avec l'Américain à qui on avait parlé, qui était vraiment en gros R&D autour de ça, puis il y a de l'AI là-dedans, c'était aux alentours de 15 000 US, me semble.
Alors maintenant, je couvre la face un peu. Le corps, je prends ça, une photo. OK, ça, c'est une vraie personne, tu vois. Mais la face, c'est pas encore là. La face, ça se voit.
Oui, c'est difficile, en fait, les yeux et tout ça. Puis souvent, ils mettent des mécanismes.
Sold out. C'est écrit « sold out
». Ah, mais ils en vendent. Hein, ouais. Ça, tout ça, c'est une industrie en pleine croissance aussi. Puis un peu comme je te disais, avec les démographies inégales dans certaines places. Les gens, on est de plus en plus isolés. Juste aux États-Unis, là, j'ai lu une stat, là, 15% des hommes en bas de 25 ans n'ont pas d'amis. Dans le sens qu'ils n'ont même pas un ami. Puis il expliquait que souvent, ces gens-là, quand tu n'as personne dans ton entourage, ils ont tendance justement là, juste à tomber dans des chambres à écho puis à virer sur le top. Là. Mais aussi, ben, la solitude, ce que j'en ai pas, ça ne vire pas tous fous,
mais
la solitude peut amener à tellement de choses puis aussi justement amener vers ces études.
Mais on est des créatures, on a besoin de ça. Comme, mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? De parler, d'en discuter, de regarder des personnes dans les yeux. Oui. On a besoin de ça. Alors si on prend ça de quelqu'un puis on l'empêche, de cette expérience, d'avoir cette expérience-là, c'est sûr que même moi, même toi, si je te rends dans une chambre pendant 5 ans puis tu vois personne, tu ne vas plus être le même Émile. C'est impossible. Tu vas changer. Alors, c'est triste, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'avec la technologie, on pousse vraiment ce monde d'isolation, veut pas. Parce qu'on est trop isolé maintenant, parce que toutes les choses qu'avant, on avait besoin de voir un être humain pour participer, pour acheter, pour faire quelque chose, on n'a plus. Si tu veux vraiment, puis tu as de l'argent, tu peux rester chez toi pendant un an puis voir personne.
Oui.
Tu peux payer toutes tes factures par Internet.
Oui, oui.
Tu peux commander de la bouffe par Internet. Tu peux commander des culottes, des personnes. Tu peux faire n'importe quoi par Internet. Alors, c'est plus en plus possible de vivre tout seul. Tout est numérique. Tu sais, les jeux vidéo avant, c'était physique.
Exact, ouais.
Plus maintenant.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sais-tu qu'on doit apprendre des enfants quand ils sont jeunes que, écoute, oui, tu as cette option-là, mais pour ta santé, tu dois essayer d'avoir une connexion puis de faire quelque chose physiquement, même si tu as l'option de le faire d'une manière numérique. Peut-être, c'est ça. On a besoin de nouvelles classes pour montrer aux gens que, écoute, laisse-toi pas faire par la technologie, contrôle la technologie. Peut-être, c'est ça, parce que tu as complètement raison. La nouvelle génération... Tout est numérique, je les comprends, ils ne savent pas. Puis après, tu te rends, tu sais, tu as 25, tu ne sais pas comment parler aux gens parce que tu n'as jamais parlé à des vraies personnes.
Ah ben oui, même les vocations des bars ont un peu changé avec le temps aussi. Hein. Maintenant, c'est rare que dans le temps, les gens sortaient beaucoup les jeudis, vendredis, samedis pour rencontrer quelqu'un dans les bars. Maintenant, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais les gens vont moins dans les bars pour rencontrer quelqu'un. On dirait que cette étape-là, elle se fait sur Tinder ou ouais. Tout ça. Puis même les bars, maintenant, les gens vont pas juste prendre un verre, ils vont aller prendre des repas. Ça a eu cet impact-là, entre autres, juste pour le dating. En fait, ça a changé complètement. Maintenant, on n'a plus besoin de pratiquement de parler à quelqu'un, du moins pour la première approche en vrai. Là, donc ça...
Moi, j'ai une soirée où j'anime au bordel. Puis ça fait quelques mois que c'est comme une running gag. Que quand je vois des couples, je leur demande c'est comment que vous êtes rencontrés. Puis à cause de leur âge, je commence à voir. Puis je parle de ça. Je dis, toi, t'as 45. Ouais, puis je dis, ouais. C'est sur quoi? Puis c'est toujours comme ça. Maintenant, c'est vraiment rare que les jeunes vont me dire. Au travail ou à l'école. Mais les plus vieux, ouais, on était en école ensemble, on était à l'école ensemble, on faisait ça, ou j'ai rentré pour acheter quelque chose, de la rencontrer. Puis pratiquement tous les jeunes, 80% au moins, sont comme Hinge, Tinder, toutes les applications qui existent. Puis c'est pas mauvais parce qu'ils sont rencontrés, puis maintenant ils sortent ensemble. Mais tu vois comment ça change la mentalité. Avant, c'est comme tu as dit, j'ai besoin de sortir, de parler, regarder le monde dans les yeux, puis. Je vais m'adapter à ça, puis c'est bon pour moi quand même parce que je sors puis je parle aux gens. Puis maintenant, pour le même but, tu n'as plus besoin de ces étapes-là. Non, alors, c'est sûr que ça va changer.
Mm-hmm. Oui, ça change. Ça amène aussi des mauvaises surprises hein, parce que justement, tout le non-verbal ou l'intangible que tu saisis juste en voyant la personne.
Puis le catfishing.
Exact. Ça, tu ne l'as pas à distance. Puis moi, souvent, dans les premières années que je faisais du Tinder, des fois, ça peut s'éterniser avant que je rencontre quelqu'un. Puis là, tu es toujours déçu. Après, tu cliques en virtuel, puis après ça, il y a ça aussi qu'on perd, qu'on le sait pas. En fait, notre instinct, il fait beaucoup de choses pour nous. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, il calcule beaucoup de choses sur la compatibilité. Puis ça, on l'a pas avec les apps, malheureusement.
Puis en plus, moi, je suis le type de personne, moi, j'adore ça. C'est pour ça que je fais les podcasts. J'adore qu'est-ce qu'on fait maintenant. Les conversations, parler avec les gens, discuter, crier, tout ça, c'est vraiment grec, ça, tu sais, on peut se crier. Puis après, quand la conversation finit, comme, OK, je t'aime encore, tu sais, nos débats entre, tu sais, les Grecs sont comme ça, tu vas avoir les pires débats, mais c'est juste pour le débat. T'aimes la personne. Puis c'est pas la même chose.
C'est du sport un peu.
C'est du sport, c'est vraiment... Mais c'est pas la même affaire sur l'Internet avec des, tu sais, des commentaires. Tout a l'air plus agressif à cause de... Alors moi, j'adore ça, puis j'espère que il y a quelque chose qui peut se passer où on peut éduquer les jeunes comment c'est important pour leur santé de parler puis d'écouter quelqu'un, de les regarder. Oui, tu peux quand même envoyer un message pour dire la même affaire, mais il y a une différence. Si je te dis que ton père est mort par texte ou si je te dis en vraie vie, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent de qu'est-ce que tu vas sentir.
Ah oui, absolument.
Oui, puis il y a des cues sociaux, tu sais, qui se perdent. On le voit déjà avec les plus jeunes, tu sais, on le voit avec les enfants qui ont été à l'école tôt pendant la pandémie, par exemple.
Ouais.
De l'après-pandémie, à quel point c'est pas évident d'approcher d'autres jeunes, de se faire des amis. On parlait dans le cadre de distorsion, on avait parlé à un sexologue, en fait, qui était, lui, il était spécialisé auprès des enfants. Puis il disait que lui pourrait être temps plein, en fait, à traiter des jeunes agresseurs de 9 et 10 ans. C'est-à-dire que déjà dans les écoles, les jeunes de 9 et 10 ans, les jeunes garçons, ont des comportements d'agresseurs envers leur compagne, en
au
fait.
Québec.
Au Québec.
Ça,
donc, dans les écoles, déjà, ils vont avoir des tempéraments manipulateurs, de tenter d'avoir des photos d'eux autres pour les faire chanter. Tu sais, ils vont déjà être là-dedans très, très tôt, la cyberintimidation.
Après tous ces efforts qu'on a fait les dernières années pour les femmes.
Oui, parce qu'on dirait qu'ils se retournent vers ça, à défaut de savoir comment aborder les gens, puis de tester les limites des gens, puis... Donc, il y a comme un pas en arrière qui s'est fait, on dirait, auprès d'une certaine génération pendant la pandémie. Là. Ouais. J'ai hâte de voir la prochaine, la génération alpha, là, les enfants qui ont en ce moment entre 4 et 10 ans à peu près. Là. Ça risque d'être intéressant aussi parce qu'eux sont nés avec toute cette abondance de technologie-là et tout ça. Là, tu vas... Tu vas à Amsterdam, là, où le cannabis est légal depuis les années 70. Tu parles à quelqu'un qui est né après ça.
Il veut rien savoir de ça.
C'est pas spécial pour lui. Tu sais, c'est pas edgy, là, fumer du pot, là. Donc,
en 2007, j'étais là, puis moi, j'étais comme avec mon ami, on était plus jeune, on textait, puis les gens qui habitaient là-bas, qui nous parlaient, ils fumaient pas, ils voulaient rien savoir. Ils étaient comme, ah, OK, c'est là, on s'en fout.
Ouais, c'est ça, c'était là quand ils sont nés, tu sais. Donc, c'est un peu pareil, tu sais. Je pense que ça, là, on voit que nos parents, la génération un petit peu plus vieille, devient hyper connectée, là. Ils ont tous des cellulaires, oui, des iPads, ils veulent tout le temps faire des FaceTime, ils commandent sur Facebook partout, tu sais, ils découvrent ça, là, un petit peu à tard. J'ose croire que la nouvelle génération qui est née là-dedans, va au contraire avoir une réaction plus d'aller vers le réel, plus d'aller vers les vraies conversations, des vraies relations avec des amis. T'sais.
Moi, j'ai une question à propos du FaceTime pour vous, si vous sentez comme moi. Moi, je n'aime pas, je ne sais pas si c'est ma génération, si quelqu'un m'appelle FaceTime sans me le dire en avance. Moi, pour moi, c'est une intrusion.
Moi aussi. Je te comprends, à part ma fille, là, que quand elle est chez sa mère, mais sinon, moi aussi.
Mais ça, c'est à cause de notre âge, vous savez ça. Hein?
Ah, bien sûrement, oui.
Les plus jeunes, c'est normal, puis ça m'énerve. Je vois ça, puis j'ai comme, t'as rien à dire, mais non, c'est juste une FaceTime. Puis moi, ça m'énerve. Je dis, mais il doit te demander, est-ce qu'on peut faire une FaceTime? Tu sais, tu veux rentrer dans mon monde sans me le dire, j'aime pas ça.
Je pense que c'est un appel pour eux, comme un appel téléphonique dans le temps.
C'est ça. Pas pour moi. Moi, ça m'énerve.
Puis tu sais, même maintenant, à recevoir des appels téléphoniques, moi, je suis tout le temps... qui m'appelle?
Oui, c'est ça. Texte-moi avant.
Oui, c'est ça. Ouais. Ça aussi, ça l'a changé. Hein. Même l'autre fois, moi, ça m'est pas arrivé, mais il y a des gens qui me disaient que les gens sonnent plus à la porte. Ils vont arriver devant chez toi, mais c'est déjà prévu que tu arrives, mais ils sonnent pas, ils textent.
Je suis là.
Mm. Puis ça, j'ai trouvé ça particulier, comme le seul moyen de communiquer, c'est le texto, même quand il y a une sonnette. Et on dirait que les gens, ça les gêne moins. Ou je sais pas, c'est bizarre. Ça.
Nos cellulaires ont vraiment devenu comme la technologie qu'on voyait dans les films, même comme, tu sais, Reboot, l'animation, le cartoon canadien Reboot.
Ah, ça me dit rien. Hein.
C'était un gars qui rentrait dans le web. Lui avait un glitch, il avait une petite affaire comme une montre, puis ça faisait tout. Il disait, tu fais ça, envoie ça, puis ça transformait, puis ça faisait quelque chose. Nos cellulaires sont vraiment ça, puis c'est comme une connexion un peu psychique, parce qu'au lieu de parler à quelqu'un, tu peux le texter. Tu n'as plus de boutons dessus, tu vois. Alors, c'est comme, on est une génération de loin d'avoir des connexions juste simplement non-verbales, à cause de la technologie et non pas des pouvoirs psychiques.
C'est
quand même fou.
Mais quand même. Hein?
Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable.
Puis si on parle de Neuralink.
Oui, ben c'est ce que j'allais dire.
C'est même pas de la technologie. Tu n'as plus besoin de parler. Tu penses à tout.
Exact.
Les Google Search puis tout ça, c'est fou.
Ah, ça, c'est fou. Puis ils sont quand même avancés dans l'interprétation, dans comment aller lire, des je ne suis pas un spécialiste, mais aller lire, ils sont capables de lire certaines pensées que tu as et l'interpréter. C'est assez fascinant. Mais Neuralink sont un peu dans la tourmente à cause qu'ils veulent pas, avant de tester ces implants-là chez des humains, ils ont dû les tester chez des animaux. Puis ils ont même une poursuite ou tout ça. Parce que c'est pas
tuer des animaux?
Ah, des tonnes, là, c'est sorti beaucoup de souris, des choses comme
ça.
Ouais, c'est bad un peu. Moi, je déteste ça, mais en même temps, des fois, quand je me mets du côté des chercheurs, je ne sais pas comment qu'on peut tester ça avant, mais en même temps, les animaux, pourquoi qu'eux souffrent, tu sais, à notre place? Là,
on devait faire ça des prisonniers qui ont tué ou ont violé le monde, tu sais, les pédophiles, les pires de la société. C'est ça votre contribution?
Oui, ça je te dirais que ça passerait moins au niveau des droits de l'homme.
Ben, moi, je préfère ça, un chien qui n'a rien fait.
Mais c'est vrai, tu sais, que... Mais un jour, si on est capable de tout synthétiser ça puis de le faire sur du synthétique, ça pourrait aider. Mais ça va s'en venir. Là, on parle de Neuralink, mais il va en avoir d'autres. Ça aussi, là, j'ai l'impression que de se faire... mettre une petite puce en soi pour... c'est quasiment une carte NFC avec tes cartes bancaires.
Mais ils font ça déjà.
Oui, c'est ça, ça.
Il y a des places dans le monde où il y a des gens...
Tu peux le faire. T'sais.
Ils font ça, puis c'est leur carte. Ils peuvent rentrer au travail avec ça.
Ouais, ouais.
Ça, je sais pas, ça, c'est trop. Quand ça rentre dedans toi... Moi, j'aime la technologie. Je suis grand fan de la technologie. J'aime qu'on l'utilise. Mais je suis pas à 100% prêt qu'on mixe.
Ouais.
Je sais que c'est ça le plan.
L'humain hybride un peu, là, ouais.
C'est ça le plan. c'est ça le plan apparemment, qu'on devient hybride, puis on devrait, comme on devient des demi-dieux. Peut-être que je suis trop vieux, mais pour moi, je comme écoute, il y a quelque chose de beau dans l'humanité,
oui,
avec nos limites.
Exact.
Je veux pas être, je sais
c'est
pas,
bien dit.
Ouais, immortel puis tout ça, mais non, parce que la beauté de l'humanité, c'est qu'on sait qu'il y a une fin, on sait que on a de la tristesse, les moments heureux, puis c'est ça qui crée notre art. Puis tu sais, si t'es, je peux pas te tuer, tu vas être là toujours, un petit dieu. Je pense pas qu'on va créer les mêmes affaires.
Non, puis imagine,
carrément.
La médecine moderne a fait en sorte que les gens meurent moins. Autant à la naissance, on vit plus vieux, puis ça a amené que la population a quasiment doublé en 20 ans.
Ouais.
Imagine si on meurt à 200, 300 ans, les ressources de la Terre aussi. T'sais, même l'aspect plus écologique.
Oui, mais ça, ils vont pas nous laisser. T'imagines? Si ça va être une ça va être, écoute, si tu veux, on peut te donner ça, mais... on va caper, tu peux pas avoir des enfants. Si tu veux, on doit accepter. Tu dois faire une request puis dire, écoute, moi, mes enfants vont être telle personne à cause de notre affaire génétique. Là, c'est sûr qu'ils vont mettre des limites, c'est sûr.
Oui, oui. Puis ça me fait penser, as-tu vu la série Upload sur Amazon Prime? C'est un peu ça, hein, c'est que tu uploads, mais pour vivre, tu vis plus, tu es mort, mais tu vis dans un paradis, mais un paradis qui appartient beaucoup aux gens aisés.
Ouais, aussi. Numérique.
Numérique. Mmh. Ça aussi, ça, j'ai l'impression qu'on va être plus proche de ça que d'une vraie immortalité, parce que ça s'en vient un peu déjà des outils. Là,
déjà des outils, mais là, j'ai une question. Puis personne ne peut répondre, mais je veux voir vous, qu'est-ce que vous pensez. Je ne sais pas si ça, c'est vraiment toi. Oui, ça peut être une copie exacte, puis ça pense. La copie pense que c'est toi, mais je pense que ton essence vraie à toi peut pas être copiée. Parce que l'upload, c'est vraiment ça, c'est une copie de tout neurone. Alors, on peut vraiment copier, puis jusqu'à tel moment, ça va avoir les mêmes mémoires, ça va vraiment penser que c'est toi, mais ce n'est plus toi. Moi, je pense que ton essence comme être humain, c'est comme un clone. On va dire qu'on fait un clone exact, c'est pas toi.
Ben, le 21 grammes de l'âme, c'est peut-être ça qu'on n'est pas capable de...
Puis je dis même pas spirituel, peut-être c'est spirituel, peut-être pas, je dis même pas que c'est spirituel, mais je pense que comme ça finit, ça commence à finir avec toi, comme c'est vraiment là. Si on trouve une manière de prendre ça, c'est différent de cette énergie-là, ou parce que moi, je pense que tout ce qui est dans nous, qui nous rend comme, qui te rend Émile, qui te rend Seb, c'est dans ton cerveau. Je pense que c'est vraiment, tout est là.
Ah, je suis 100% d'accord avec toi, en fait. Je suis pas convaincu que ces choses-là vont arriver, mais c'est quand même intéressant de s'y projeter parce que j'ai l'impression qu'on va être dans un genre d'entre-deux pour gérer le deuil et tout ça, là, dans un futur pas si lointain avec le metaverse et tout ça. C'est un peu ça. Upload, là, c'est une forme de metaverse pour les gens morts. Puis il va en avoir des lunettes virtuelles et tout ça. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin, mais tu as raison. Mais je sais pas si c'est sain. Si on va aller là aussi, là, c'est surtout ça, là, c'est étirer la présence de quelqu'un de mort.
Puis est-ce que
je suis pas sûr que c'est ça non plus.
Si on te copie maintenant, OK? Alors à 100%, alors la personne qu'on voit digitalement, c'est toi. Toutes tes mémoires, toutes tes pensées jusqu'à ce moment-là, ben alors c'est toi qui penses comme toi. Tu es dans le metaverse, tu vas pas avoir peur, tu vas comme moi, t'as fuck, elle est où ma fille? C'est fou quand même. Puis là, toi, tu es dehors, puis tu dois expliquer, écoute, t'es moi. T'es une copie directe de moi. Veux pas, la personne va être, mais non, c'est moi le vrai Émile. C'est le clone, peut pas comprendre pourquoi je suis là, puis tout ça, c'est complètement fou. Le clone va pas se rendre comme suicidaire, c'est fou.
je me suis pas rendu jusqu'à...
Parce que c'est toi, maintenant, dans un instant, tu tombes, puis dans le metaverse. T'es comme, what the fuck?
Ben ça dépend qu'est-ce qu'on te load au départ. Ouais,
tu rentres graduellement.
Dans ton menu de départ.
Ouais, écoute, ça fait un an que t'es mort, puis t'es comme, mais suis-tu vraiment, c'est moi qui est mort? Suis-tu une copie? C'est toutes des questions comme ça.
Oui, des crises d'identité numérique.
Oh man, puis peut-être c'est juste moi qui pense comme ça, mais pour moi, c'est vraiment ça. J'ai vu la série Upload, puis je pensais toujours à ça. C'est-tu vraiment lui? Comme... quand on parle dans cet univers-là, bien sûr, ou c'est juste une copie parce que c'est impossible de prendre ton essence.
Oui, ben c'est vrai. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Hein, parce qu'il copie intégralement le cerveau, puis on le voit imagé comme des fichiers d'un ordinateur. Là. Il drague des événements de mémoire, puis il déplace de dossiers comme si ouais. Notre cerveau était structuré comme ça. C'est quand même assez amusant. Puis surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série-là, c'est entre les riches et les pauvres. Ça démontre aussi.
Ça termine jamais.
Non, exact. Les pauvres qui ont un nombre illimité de données à chaque fois, puis tu as les riches plutôt, puis les pauvres, ils ont 2 gigs.
Ouais, ouais.
Puis quand tu as éliminé, tu figes, tu tombes comme, dans un genre
ouais, ouais, comme je Gmail. Ça.
Oui,
ouais,
exact.
Ouais, ouais, c'était quand même...
ça, je trouvais ça drôle.
C'est un bon commentaire de la
oui,
société maintenant.
Oui, exactement.
Non, il y a encore des bons shows maintenant qui sortent.
Ah, ben oui, il y en a plein de... Comment dire? On a étiré beaucoup la sauce, mais oui, il y a plein de bons shows.
On retire, c'est sûr. Qu'on... Puis vous, est-ce que vous avez des plans maintenant pour une nouvelle série?
Oui, ben là, on est au moment où on enregistre avec toi. On est en pause estivale, mais on revient très bientôt. Dans le fond, notre saison 9 qui va revenir en podcast dès septembre.
Oui.
Donc, très bientôt.
Planifier quelque chose de live?
Oui, il y a le Festipod, en fait, qui se déroule le week-end du 16 septembre à la Maison de la culture de Maisonneuve à Montréal. Il y a plein de podcasts qui vont faire des prestations live. Nous, on va être là le samedi soir, 21h, avec Christian Page, justement, dont on a parlé plus tôt, pour parler des ovnis, un peu la situation des ovnis, du paranormal à l'ère numérique. Donc, on a bien hâte de voir ce que Christian en pense. Puis, tout au long de l'année aussi, on a quelques petits moments où on risque de faire des trucs live aussi, là, ça risque d'être le fun. C'est quelque chose qu'on veut pousser un petit peu plus, ouais. Là, justement, aller à la rencontre de nos auditeurs, auditrices, de refaire un peu des événements dans la vie réelle là, après la pandémie. Donc, ça risque d'être, d'être une grosse année, en fait.
C'est très fun, ça. J'en ai fait certaines, puis c'est fun.
Ah oui, c'est le fun.
Ah oui, c'est cool.
Oh. C'est le fun de rencontrer les gens. Les gens sont tellement fins, en plus.
Ah, oh, les gens sont cool.
Ben oui. La crowd des podcasts.
Moi,
cool.
Ça me motive. À chaque fois que je fais quelque chose de live et je rencontre des gens que je ne connaissais pas, c'est des fans du podcast, ça me motive. Je dois en faire plus.
Mm-hmm.
Et, lui, il m'a parlé de ça. Il a vraiment aimé tel épisode. OK, je dois amener quelqu'un proche de ça. Ça te motive.
Ben oui.
C'est très, très bon.
Ah oui, non. Oui. C'est du bon feedback.
Ah, oh, ben puis si vous avez des questions, jamais pour quelque chose à Montréal, je sais pas, une place à faire des podcasts ou. Vous pouvez me donner un message, là, envoyez-moi quelque chose, puis je peux vous en parler. Excellent. Je connais assez de monde qu'on peut faire de quoi.
Ben oui, c'est clair.
Ouais.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Non,
ben oui, cool. Non, on entend bien ce que tu nous dis.
Et honnêtement, merci d'être venu au podcast. C'était fun. Je pense que le monde va triper sur cet épisode-là. On a parlé de plein de choses cool.
Ah ben j'espère, ouais, c'était vraiment le fun.
Merci de l'invitation, hein, vraiment sympa.
Tous vos liens sont dans la description. Alors si quelqu'un n'avait pas entendu parler de distorsion, ben c'est facile, juste un clic. Puis vous avez des podcasts, tous les liens sont là. Merci les gars.
Merci, right. Merci à vous.
Merci Mister. Welcome everybody to the thoughts of my head. All my confessions are the latest trend. I'll put some on my feet for you all to read.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.